Pour le chapitre 9, nous étions restés au verset 12, ayant médité hier la guérison de l'aveugle né, le fait lui-même, nous allons maintenant voir l'enquête qui va suivre ce miracle accompli un jour de sabbat. Nous lirons à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre 41. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ?» ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qu'il concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit. » Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas péché. » Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Sottement et par flatterie à l'égard des autorités, car les pharisiens étaient pour une bonne part le Sanhédrin, les voisins de l'aveugle qui a été guéri emmènent ce dernier auprès des pharisiens. En quelque sorte, ils l'emmènent de force, ils l'arrêtent et l'emmènent de force vers les pharisiens. La foule est souvent ainsi, ou bien elle est tout à fait révoltée, ou bien alors elle flatte les autorités. Elle n'agit pas selon sa conscience, mais elle agit toujours par l'effet de mouvement en elle, qui ne sont pas la réflexion, qui ne sont pas la sagesse, ce sont des mouvements. La foule est toujours mue par des mouvements, et souvent ce sont des mouvements de flatterie à l'égard des autorités. Les autorités veulent ceci, on veut se faire bien voir, on veut se montrer aux autorités, être connu d'elles, n'est-ce pas? C'est un sentiment populaire qui existe lorsque il n'y a pas le sentiment de la révolte, l'un ou l'autre. Et les pharisiens vont alors conduire une enquête, mais cette enquête ne sera pas faite avec un esprit libre, avec une conscience droite, mais selon le préjugé des pharisiens, c'est-à-dire leur intention bien arrêtée de condamner Jésus. Ils vont entendre cet homme qui a été guéri, et à nouveau, ils vont relever contre Jésus le grief d'avoir guéri un homme le jour du sabbat. D'autant plus que Jean a bien souligné dans son verset 14, « Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. » Non seulement Jésus avait guéri, il n'avait pas guéri simplement par une parole, n'est-ce pas, qui n'aurait pas été tout de même un acte, mais il avait guéri en accomplissant quelque chose. Si menu soit cet acte, il avait fait de la boue, il avait donc fait un travail. Et cela accusait encore davantage, aux yeux des pharisiens, la transgression des règles du sabbat. En réalité, Jésus, comme nous l'avons déjà remarqué dans le cas de la guérison de l'impotent de Bethesda, Jésus n'avait pas transgressé le sabbat. Le sabbat de Moïse, il ne l'avait pas transgressé. C'était ce sabbat défiguré, ce sabbat vu au travers de toutes les traditions des Juifs de ce temps, c'est ce sabbat-là que Jésus transgressait, mais non pas le vrai sabbat de Moïse. Il y eut alors division parmi les pharisiens. Certains des pharisiens qui, bien entendu, sont acharnés et veulent tenir un motif de condamnation de Jésus, disent « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » Pour eux, déjà, c'est jugé, c'est ça, il semble satisfait de tenir ce grief contre lui. Mais il se trouve tout de même parmi les pharisiens, il s'en trouve d'autres qui disent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Il y a donc séparation, division. Cela, nous le noterons chaque fois que l'Évangile nous en donnera l'occasion. Ben, je l'ai déjà noté, mais notons-le à nouveau, c'est une chose qu'il faut savoir. Comme l'a dit Siméon, devant le petit enfant tenu par sa mère Marie, dans le temple, celui-ci sera un signe qui provoquera la contradiction. il faut que la parole du Seigneur, le Seigneur et sa parole et l'Évangile, ce qui est la même chose, n'est-ce pas? Christ est dans l'Évangile, l'Évangile est de Christ, eh bien, l'Évangile produit la contradiction. Le véritable Évangile, l'Évangile qui est attesté par le témoignage d'un enfant de Dieu, l'Évangile produit la contradiction. Si l'on veut éteindre la contradiction, éviter la contradiction, contourner la contradiction, on entre dans une compromission avec l'esprit du monde, et bien entendu, on détruit l'Évangile. L'Évangile est alors altéré. C'est facile de détruire l'Évangile. Très facile, chers amis. On peut paraître l'énoncer d'une façon correcte, et en réalité, on énonce un faux Évangile, un Évangile falsifié, défiguré, si cet Évangile n'a pas gardé toute son autorité et par conséquent tous ses tranchants. Il provoque la division, s'il ne peut pas en être autrement. Je suis venu apporter dans ce monde non la paix, mais l'épée. Ah, mes amis, à notre siècle, c'est une chose, ça, que on voudrait absolument supprimer de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais je vous dis, on altère l'Évangile si l'on supprime cela. Je suis venu non avec la paix, apporter la paix dans le monde, mais l'épée. Et cette épée va déjà agir dans le sein des familles. Elle agira dans le sein de la société, nécessairement. Il faut qu'elle sépare. Et il faut que nous acceptions la séparation. Hein? Nous avons vu des personnes de dire « Ah non, moi je peux pas, ma fille ne veut absolument pas, c'est pas possible, alors qu'est-ce que vous voulez, je serais privé de mes petits-enfants, etc. Alors, ben non, j'aime mieux abandonner. » Il y a eu des gens comme ça pour dire cela. Mais attention que nous, chrétiens, sans le dire, nous ne le fassions, n'est-ce pas? Et nous ne fassions plier l'Évangile, plier la parole de Dieu pour faire plaisir à quelqu'un. Prenons bien garde à cela. Les amis de la lumière et les amis des ténèbres ne peuvent que se séparer. Il faut qu'ils se séparent. Il ne peut en être autrement. Quant à l'homme guéri qui est interrogé à nouveau, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Là, il voudrait, n'est-ce pas, influencer cet homme et l'amener à, justement, à renier son témoignage, ou tout au moins à le transformer de telle manière que ce témoignage puisse être facilement détruit par ceux qui l'interrogent. Mais il va répondre simplement ceci, c'est un prophète. Tout ce que je sais, c'est un prophète. J'en sais pas plus qu'il faut dire de lui, eh bien c'est un prophète. Et en disant cela, l'homme guéri ne se trompe pas, Jésus est en effet un prophète, il a été annoncé comme tel par Moïse, il viendra un prophète, semblable à moi, pas plus redoutable que je ne suis moi-même, un prophète, celui-là, il faudra l'écouter. Un prophète, c'est quelqu'un qui vient de Dieu, qui est suscité par Dieu. Jésus, fils de l'homme, se présentant comme homme, là, est avant tout un prophète. Il est plus qu'un prophète, bien sûr, mais il est déjà un prophète, et ce n'est pas mal, n'en sachant pas davantage, que de le considérer comme un prophète. Et alors, les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue. Bien entendu, pour eux, n'est-ce pas, le miracle, c'est quelque chose de difficile à assimiler. Hein. Ils ne peuvent pas vraiment, n'est-ce pas, l'incrédulité est tellement attachée à leur pensée, à leur cœur, qu'il leur est impossible d'accepter le miracle. Alors, ils font venir ses parents, et ils vont interroger les parents, leur posant trois questions, D'abord, une question d'identité, est-ce que c'est bien votre fils? Deuxièmement, est-ce que vraiment il est né aveugle? Et puis, troisièmement, comment il se fait, s'il est né aveugle, il voit maintenant? Alors, les parents ne vont répondre sur les deux premières questions d'une façon affirmative, cela ne les engage pas. C'est bien notre fils, oui, nous le reconnaissons, c'est bien lui, et nous savons qu'il est né aveugle, il est né aveugle, et il est resté aveugle. Cela n'est pas douteux. Ah, mais quant à dire pourquoi il voit et qui lui a ouvert les yeux, ça, alors nous ne savons, interrogez-le lui-même, il est assez âgé pour vous répondre. Par conséquent, demandez-le lui, à lui-même, nous ne pouvons pas vous répondre là-dessus. Et nous savons que c'est là une prudence de leur part, car ils craignent les Juifs, ils ont peur des Juifs. En effet, les Juifs ont fait savoir que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, donc les Juifs savent très bien, n'est-ce pas, que Jésus a lui-même affirmé qu'il était le Messie, et si quelqu'un le reconnaît pour le Messie, il sera exclu de la synagogue. Or, être exclu de la synagogue, cela entraînait des conséquences extrêmement graves. C'était une excommunication, un petit peu du même genre que celle que l'on prononçait dans l'Église romaine au Moyen-Âge, n'est-ce pas? Ça pouvait aller jusqu'à la mort. En tout cas, c'était la privation, non seulement de l'entrée dans les parvis du temple, mais c'était aussi le refus d'entrer dans la synagogue et le refus de participer à toutes sortes de choses. C'était la mise au ban de la société, n'est-ce pas? Et c'était extrêmement pénible pour des juifs de ce temps. Ainsi, n'est-ce pas, voilà pourquoi les parents de cet homme vont se dérober devant la question principale et se tirer d'affaire habilement, mais, n'est-ce pas, ils laissent en somme tout le poids du risque à leur fils. Interrogez-le lui-même. Alors, s'il lui arrive quelque chose, nous voyons, n'est-ce pas, combien l'âme du peuple était quand même pas sans ténébrer, n'est-ce pas? Parce que devant leur fils n'avait pas le courage, en somme le risque qu'ils voulaient s'épargner à eux-mêmes, eh bien ils le consentaient à leur fils, n'est-ce pas? Interrogez-le, puis si lui dit que Jésus est le Christ, eh bien ma foi, c'est lui qui sera excommunié, c'est pas nous, n'est-ce pas? C'est quelque chose de lamentable, lamentable. On voit, n'est-ce pas, que lorsque le Seigneur est absent, les cœurs sont véritablement chargés de mauvaises choses et l'homme est dégradé à un point qu'on ne peut supposer. Et on peut dire aussi que la lâcheté de ses parents n'est que le prélude d'une lâcheté qui va être généralisée parmi le peuple et devant Jésus, par crainte des Juifs, cela sera indiqué après, par crainte des Juifs, eh bien le peuple l'abandonnera, et le peuple qui pourtant a vu des miracles et a entendu de si bonnes choses, qui a vu les manifestations de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien le peuple abandonnera celui qui lui a apporté tant de bien. Ensuite, les pharisiens vont s'efforcer d'arracher à l'aveugle guéri le désaveu du miracle. Mais là, ils font fausse route. Ils se trompent lourdement. Ils veulent en arriver à supprimer la réalité du miracle à l'avantage du dogme, et par le moyen du dogme. Et ils lui disent à cet aveugle, « Donne gloire à Dieu !» Nous savons que cet homme est pécheur. « Donne gloire à Dieu !» Ce qui veut dire reconnais que tu t'es trompé sur cet homme. Nous, les chefs religieux, nous disons que c'est un pécheur. Et tu ne peux pas ne pas nous croire, ne pas accepter de nous ce jugement. Nous sommes qualifiés pour cela. Nous disons que c'est un pécheur. Et toi, tu en as fait un prophète. Eh bien, nous voulons bien te pardonner cela, oui. Cet écart de langage, tu es un homme du peuple. Mais maintenant, n'est-ce pas, tu vas parler tout autrement. Nous entendons, tu vas donner gloire à Dieu. Tu t'es trompé, tu vas revenir à la fidélité. Cet homme ne pouvant être un prophète, tu vas reconnaître t'être trompé, n'est-ce pas? Et maintenant, te fier à la parole de ceux qui sont tes maîtres dans la foi, dans la religion. Voilà ce que voulait dire « donne gloire à Dieu ». Et en somme, n'est-ce pas, ce que font ces hommes, c'est de tenter de supprimer donc la réalité à l'avantage du dogme. Et chers amis, ce que je viens de vous dire là sera une chose tout à fait courante dans l'Église, dans toute la carrière de l'Église, et l'est encore aujourd'hui, hélas. Et peut l'être encore dans nos propres milieux, prenons garde. Une chose est réelle, elle est vraie. Elle est faite par Dieu qui, lui, ne tient pas compte des règles que les hommes peuvent se donner, la manière dont ils peuvent interpréter la parole de Dieu et des interprétations qu'ils peuvent lui appliquer. Dieu ne tient pas compte de cela. Dieu agit. Dieu agit selon lui la vérité. Et chers amis, il arrive, hein, hélas, il est arrivé bien sûr dans le cours de l'Église, ça avons-nous besoin de le dire, que le romanisme a fait plier la réalité au dogme, naturellement, n'est-ce pas? Il a voulu par le dogme nier la réalité, nier les œuvres de Dieu, les œuvres de lumière, par le moyen des œuvres des ténèbres. Mais ces œuvres des ténèbres étaient elles-mêmes affublées du dogme, de la prétention à la vérité. Et encore aujourd'hui, Rome fait cela sur une grande échelle, bien entendu, quand on vous parle dans des écrits, dans des rapports de la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité, c'est toute l'erreur. C'est toute leur erreur. Eh bien, c'est au nom de cette fausse vérité, pas qu'ils vont attaquer ce qui est pourtant la réalité des œuvres de lumière de Dieu. Il y en a encore, mais ce n'est pas maintenant. Et tout au long de la carrière de l'Église, ça a été ça. Ben, quelqu'un était-il pieux vraiment? Était-il vraiment l'instrument de Dieu? Quelqu'un, n'est-ce pas, prêchait-il la vérité? Il fallait nier cela et en faire un hérétique et le brûler, n'est-ce pas, au nom du dogme. Au nom du dogme. Bah, eh bien, aujourd'hui, ce travers, parce que là, bah, c'est un très mauvais sillon qui a été, bien entendu, tracé par Satan, et dans lequel Satan voudrait nous faire tomber, n'est-ce pas, ce sillon. Il voudrait nous amener à cela, il en a tracé plus d'un sillon comme cela. Eh bien, il y a un risque, et ce risque, c'est Finet qui le met en évidence, n'est-ce pas, quand il dit que des gens qui ont vraiment la plénitude du Saint-Esprit et qui sont sous la puissance du Saint-Esprit, eh bien, ils ont des ennuis, des difficultés, voire même des persécutions dans leur propre milieu, dans leur propre communauté. Et cela s'est vu, et cela peut se voir, si nous n'y prenons garde, dans leur propre milieu, n'est-ce pas? Évidemment, il y a des gens auxquels il faut prendre garde, parce que vous avez des gens qui vous diront qu'ils sont toujours, eux, particulièrement en relation avec Dieu, qu'ils obtiennent de Dieu, que Dieu leur donne des songes, leur donne toutes sortes de messages et fait pour eux les miracles qu'il ne fait pas pour d'autres, etc., n'est-ce pas? Même dans un culte, Dieu pourrait fort bien, n'est-ce pas, dérégler la marche du culte. Et nous l'avons vu, je vous en parle bien, parce que nous l'avons vu, n'est-ce pas? Nous l'avons vu, cela. Au milieu d'un culte, ça nous est arrivé à Alger plusieurs fois, au milieu d'un culte, eh bien, Dieu est intervenu comme il a voulu, n'est-ce pas? Il a voulu, il nous a fait donner un témoignage au milieu d'un culte, il nous a délivré un homme au milieu d'un culte. Et, chers amis, c'est Dieu qui l'avait fait, et ça a été authentiquement l'œuvre de Dieu. Et nous avons béni Dieu, n'est-ce pas? Mais si nous avions été des gens rigides, imposant notre discipline, nos règles, eh bien nous aurions combattu la réalité par notre règle, que nous aurions prétendu être l'expression de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, pour le compte d'un dogme qui, dit-on, n'est-ce pas, est la parole de Dieu, on veut souvent chasser la réalité. Il y a encore un autre exemple de cela, c'est l'attitude de ces groupements évangéliques, et j'ai été bien placé pour connaître la chose, puisque j'ai combattu pendant assez longtemps dû combattre une telle position, n'est-ce pas? Eh bien, dans des assemblées évangéliques de certains mouvements ou groupements, pourtant des milieux évangéliques où l'on prêchait le salut par la foi en Jésus-Christ, hein, eh bien, dans ces milieux, on rejetait la guérison, on rejetait le miracle, disant que ce n'est plus pour aujourd'hui. Alors, on a décidé que c'était fini, que le miracle et la guérison divine ne devaient plus s'accomplir maintenant. Voilà le dogme qu'on s'est donné. Mais quand Dieu fait une guérison, on n'est pas content. Et on veut que la guérison disparaisse. C'est pourquoi, mes amis, je vous dis une chose, souvent, n'est-ce pas, nous avons un regard, mettons, assez sévère pour notre propre milieu, et il le faut, parce que sans quoi nous jugerions, n'est-ce pas, des gens parvenus, nous dirions tous, nous sommes riches, comme Laodicée, n'est-ce pas? Il faut donc que nous sachions nous juger nous-mêmes. Mais, chers amis, ceci étant, il faut aussi que nous sachions que notre appartenance à un mouvement de plein évangile est une chose nécessaire, est une chose bonne, n'est-ce pas? Et il ne faut pas retourner vers des mouvements qui n'ont pas le plein évangile. Évitons cela, ne faisons pas cela, ne nous laissons pas aller à cela, n'est-ce pas? Nous retournerions en arrière. Ce n'est pas pour juger mal ces groupements que, écoutez-moi, je suis en rapport avec certains. Ben, j'essaie, je m'efforce d'ailleurs de les amener à une autre pensée. Mais il faut bien dire qu'il y en a, n'est-ce pas, où on nie absolument. Enfin, la chose a été d'ailleurs dites dans des livres, vous le trouverez dans des livres, même des livres de gens qui ont été d'excellents évangélistes. Ah, ils vous diront, mais le miracle n'est plus pour aujourd'hui, ça finit au premier siècle, quand ce qui est parfait, disent-ils, est venu, en tordant d'ailleurs la parole de Paul dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Alors ils vous disent, quand la Bible a été complétée de l'Apocalypse, n'est-ce pas, alors ce qui est parfait est venu, c'était total, c'est fini. Alors là, à ce moment-là, tous les miracles, les signes, les dons, etc., tout ça, n'est-ce pas, a disparu. Eh bien, ce sont là des gens qui suppriment la réalité au profit, à l'avantage d'un dogme qu'ils ont établi. Ce dogme est totalement faux, d'ailleurs. Absolument faux. Et pourquoi, voyez, mes amis, malgré tout, tenons au plein évangile, n'est-ce pas? Tenons au plein évangile et forçons-nous dans des assemblées de plein évangile d'être victorieux et d'être vrai. Ainsi donc, on peut arriver, n'est-ce pas, à supprimer la réalité à l'avantage du dogme. Et méfions-nous de cela, si ça s'est fait en grand dans le romanisme, ça peut se faire encore parmi nous, ça, vous le voyez. L'aveugle guéri va répondre à ces pharisiens, et ces réparties sont vraiment magnifiques. D'abord, il se montre reconnaissant envers celui qui l'a guéri, il est droit, il est sincère, et il n'a pas peur des conséquences de ses paroles. Il n'a pas peur. Et mieux que cela, on sent que le Saint-Esprit s'empare de cet homme, c'est le Saint-Esprit qui s'empare de lui, et il va dévoiler l'hypocrisie de ses interlocuteurs et les prendre en défaut de vérité, il va les prendre en flagrant délit de mensonge à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard de la vérité. D'abord, il va leur dire, « Mais pourquoi m'interrogez-vous encore ? Vous l'avez déjà entendu. Voulez-vous aussi, vous, devenir les disciples de cet homme ? Voulez-vous devenir, est-ce que vraiment c'est ça qui vous attire ? » Alors, par là, n'est-ce pas, il leur montre qu'il voit bien, il discerne bien, et il discerne par esprit leur intention méchante. Ben, vous voudriez, vous aussi, devenir, il y a une sorte d'ironie, n'est-ce pas, mais d'ironie qui est très objective, vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples. Alors, bien entendu, là, n'est-ce pas, la colère s'empare de ces hommes. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. C'est toi qui es son disciple. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Alors, l'aveugle guéri va reprendre la parole et dire, il est étonnant, vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. C'est drôle, vous, chefs des Juifs, vous ne savez pas d'où est un homme qui vient faire de tels miracles, qui m'a ouvert les yeux, vous ne savez pas. C'est drôle, ça. Vous, les chefs religieux, vous ne savez pas ça, n'est-ce pas? Vous voyez, ça met en évidence leur incurie totale dans le domaine de la foi et de la vérité. Nous savons que Dieu, va-t-il ajouter, n'exauce point des pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Eh bien là, n'est-ce pas, c'est une parole de vérité, une parole qui est toujours vraie, elle était vraie sous l'empire de la loi de Moïse, elle l'est encore sous celui de la grâce. Et chers amis, nous devrions bien savoir ça, nous qui avons besoin d'exaucement et qui devons avoir recours aux exaucements. Nous devons vivre d'exaucement. Nous allons le voir, n'est-ce pas, plus particulièrement dans l'étude de cet évangile. Nous devons vivre de ça. Dans l'Église, nous devons vivre d'exaucement, non pas de paroles qui nous sont données, n'est-ce pas, comme le prétendent certains, n'est-ce pas, va, avance, tiens, va, pars d'ici, va dans ce village, tiens, prends la première rue à droite, tiens, prends la première rue à gauche. Il y en a des gens qui voudraient être conduits comme ça, n'est-ce pas, comme les chevaux, avec un mort dans la bouche et des guides, enfin, c'est pas ça. Mais, cependant, nous devons vivre dans l'Église par le moyen des exaucements de la prière. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Et quand le Seigneur Jésus nous incite à faire les œuvres, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il ajoute, demandez afin que vous receviez. Vous ne pouvez pas faire ces œuvres si vous ne demandez pas. Il faut demander. Et nous, dans la vie chrétienne, il faut vivre. Donc, avec des exaucements, par le moyen des exaucements. Sans quoi, nous nous replierons sur nous-mêmes, sur nos efforts, et nous voudrons agir ce qui Hélas, le cas fréquent, nous serons amenés à agir par nous-mêmes et à faire agir l'affaire. Il faut agir avec des exaucements. Tout ce que nous avons à faire, il faut le faire par le moyen d'une correspondance toujours établie avec le ciel, avec le Seigneur, à travers Jésus, et recevoir des exaucements. Nous devons demander, et nous ne pouvons faire que ce que nous recevons, ce qui nous est donné en tant qu'exaucement. Nous demandons et nous faisons. Dieu nous indique bien sûr d'avance lui-même les œuvres à accomplir, mais même si Dieu nous indique les œuvres à accomplir, il faut demander. Demander, ça peut être très rapidement fait, n'est-ce pas ? Seigneur, que dois-je dire ? Que dois-je faire ? Seigneur, il suffit d'une prière intérieure, si l'on n'a pas le temps d'en faire une autre, pour demander au Seigneur, mais il faut toujours, n'est-ce pas, vivre et agir avec cette correspondance, et c'est ce qu'on ne fait plus, c'est ce qu'on a oublié de faire, ou c'est ce qu'on n'a pas été appris à faire. Hein? Mais c'est ça la véritable vie chrétienne, autrement ça n'a pas de sens, autrement c'est le déploiement du charnel à travers quelques règles évangéliques. C'est tout simplement ça. Mais la véritable vie chrétienne, véritable vie du disciple de Christ, c'est une vie surnaturelle. Nous marchons sur les eaux. Nous marchons sur les eaux, nous ne marchons pas, quoique accomplissant les œuvres dans le cadre de la société, de cette terre. Cependant, ces œuvres ne sont pas des œuvres de la chair, mais des œuvres de l'esprit, des actes de l'esprit. Et ces actes, il faut les accomplir selon la volonté de Dieu et par le moyen des exaucements. Mais si donc cet homme a tout à fait raison, et puis il ajoute, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ça aussi, c'est vrai, voyez. Si cet homme, et le Seigneur Jésus, ne va pas apporter de modification à cela, d'ailleurs n'a-t-il pas dit, je ne suis pas venu changer la loi, modifier la loi, mais je suis venu l'accomplir. Nous oublions trop souvent cela, n'est-ce pas, que la loi n'est pas s'abroger, la loi n'est pas caduque, c'est le mode de marche qui est changé, mais non pas la loi qui reste bonne. Nous n'avons pas à nous référer d'une façon systématique à la loi parce que la loi est écrite en nous. Nous ne tuons pas quelqu'un parce que c'est écrit dans le décalogue, mais parce que c'est écrit dans notre cœur. C'est ça, voyez-vous. Et le commandement est d'ailleurs beaucoup plus raffiné, si je puis dire, dans notre cœur qu'il ne peut l'être lorsqu'il est exprimé par des mots. Enfin, eh bien, la loi, cependant, n'est pas changée. Et le Seigneur Jésus nous dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non seulement vous n'ouvrirez pas les yeux des aveugles, mais vous ne convertirez personne. Vous ne ferez absolument rien avec mon évangile si ce je ne suis pas avec vous. C'est pour ça que je vous dis, il faut cette correspondance constante. Et ça, n'est-ce pas, cet homme a pleinement raison. Il énonce un principe qui ne disparaît pas, bien au contraire, mais qui va avoir sa pleine expression dans le temps de la grâce. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et si nous ne sommes pas des hommes venant de Dieu, c'est-à-dire des disciples de Christ, si en nous il n'y a pas la présence du Christ, l'Esprit de Christ n'est pas en nous, nous ne lui appartenons pas et nous pouvons rien faire. Nous pouvons absolument rien faire. Alors, chers amis, c'est pas, il faudrait peut-être ouvrir un compte d'échecs et le mettre à cette rubrique-là, n'est-ce pas, nous opérons souvent sans Christ, où l'on paierait tout seul,
Si ça ne donne rien, rien ne se fait. Vers tout seul, c'est de la parodie, ce n'est pas de la vérité. Et alors, ces hommes, évidemment, qui entendent ça, qui entendent cet enseignement, et sur cet enseignement, ils ne peuvent absolument rien reprendre. Il n'y a rien à reprendre, ils ne peuvent pas reprendre. On voit bien que c'est le Saint-Esprit qui fait parler cet homme. C'est droit, c'est simple, c'est clair, c'est net. Comme on dit, c'est sans bavure, n'est-ce pas? Et ils ne peuvent rien reprendre à cela, c'est pas possible. Mais alors, bien entendu, n'est-ce pas, de s'entendre remettre à leur place et de s'entendre, eux, reprendre par cet homme du peuple, alors, ils en sont furieux, évidemment. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, nous les grands, nous les gens, n'est-ce pas, qui sont connus pour être les grands chefs, les docteurs d'Israël, c'est nous les docteurs d'Israël que tu veux enseigner, toi le peuple, et vous savez, je vous l'ai déjà signalé, les pharisiens regardaient le peuple comme une masse de gens livrés au péché. Bah pour eux, c'était le troupeau des pécheurs, hein, des gens sans loi. Hein. Ah, c'est cette vue qu'ils avaient sur le peuple. Alors, quelqu'un du peuple qui vient les enseigner, mais ils auraient dû répondre à cet enseignement. S'ils avaient été de Dieu, ils auraient dû dire, écoute, ce que tu viens de dire est vrai. Tant pis si ça nous juge. Hein, mais c'est difficile de dire ça, n'est-ce pas vrai? C'est difficile de dire, tant pis si ça nous juge. Nous qui avons une place parmi les autres, qui avons une sorte de privilège, n'est-ce pas, nous qui avons une autorité au milieu du peuple. Et chers amis, vous voyez, il faut que quelqu'un qui a un ministère, ce soit un ministère de prophète, un ministère d'apôtre, un ministère de pasteur, de docteur, n'est-ce pas, d'évangéliste, ou un ministère d'ancien, eh bien, quelqu'un qui a un ministère, vous voyez comme il lui faut être humble et capable d'humilité. Parce que si quelqu'un, n'est-ce pas, de la masse de l'Église, quelqu'un vient vous dire une vérité, quelqu'un vous dit une vérité qui vous reprend, qui vous rappelle quelque chose que vous avez oublié ou que vous n'avez pas appliqué, ben, il faut pouvoir l'accepter. Pour pouvoir mettre sa qualité de pasteur dans sa poche, hein, et puis accepter d'être repris par le Saint-Esprit, par la bouche de n'importe qui, n'importe lequel, pourvu que la chose soit bien du Saint-Esprit. Alors, vous voyez combien il faut d'humilité. Il faut d'humilité à tous. C'est une chose tellement importante. Faute d'humilité, nous tombons dans les travers des pharisiens. Nécessairement, on tombera dans les travers des pharisiens. Si, n'est-ce pas, au lieu de ne voir que la parole de Dieu, si on considère un peu le titre ou la position que l'on a vis-à-vis des autres, bah, et que l'on veut maintenir, malgré tout, sauver la face, comme on dit, horreur! Horreur dans l'Église. Il n'y a aucune face à sauver. Il faut pouvoir accepter de n'importe qui, si c'est vrai, si c'est le Saint-Esprit qui utilise ce quelqu'un, pouvoir accepter d'être repris par la vérité et la parole de Dieu. Ce n'est peut-être pas facile, mais il faut rester brisé. S'il n'y a pas de brisement chez l'homme, il y aura nécessairement de l'orgueil. Et l'orgueil est une chose terrible si elle s'allie avec l'autorité. Nous arrivons au verset 35. La foi de l'aveugle s'est si bien manifestée. Il vient naturellement d'être expulsé, chassé, on a dû le chasser même à coups de manche et que sais-je, n'est-ce pas, tellement la colère de ces hommes était grande. Et alors, la foi de l'aveugle a été magnifiquement manifestée, puisque le Saint-Esprit le lui a permis. Eh bien, cette foi qui a accepté l'opprobre et les risques a sa récompense. Voici que Jésus réapparaît. Cet aveugle chassé, Jésus réapparaît. C'est pas aux pharisiens, parmi les pharisiens, parmi le Sanhédrin, que Jésus vient, apparaît. C'est à cet homme chassé. Oh, ça, la figure est belle, n'est-ce pas? C'est à cet homme auquel on a donné le coup de pied, c'est à cet homme que Jésus apparaît, non pas au grand docteur d'Israël. Jésus, donc, est là sur la route, à nouveau, de cet homme. Et cet homme pourra alors confesser sa foi et savoir en qui il croit. Jusqu'ici, il avait foi, mais il avait foi en un prophète qui a un nom Jésus. Il ne savait qui était ce Jésus. Et c'est pourquoi le Seigneur veut le rencontrer, le voir, et va lui poser cette question. Crois-tu au Fils de Dieu ? Il n'y a pas là de longues explications, vous voyez, il n'y a pas un enseignement prolongé, mais une question courte, nette, crois-tu au Fils de Dieu? Il faut qu'il sache tout de même ce que veut dire l'expression Fils de Dieu. Eh bien, cet homme que le Saint-Esprit conduit va répondre, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Ne demande pas d'explication, ne pose que la question qui convient. Qui est-il? Où est-il? Et c'est là que le Seigneur va lui dire, ben, tu l'as vu, tu l'as déjà rencontré, tu l'as déjà rencontré, tu l'as rencontré une première fois, et maintenant, eh bien, tu l'as devant toi. Tu l'as encore devant toi, celui qui te parle, c'est lui. C'est lui qui est le Fils de Dieu. Et cet homme va répondre tout simplement. On voit que le Saint-Esprit, vraiment, a fait le travail. Quand le Saint-Esprit s'est saisi d'un cœur, eh bien, vraiment, ce cœur va tout droit au Seigneur, sans difficulté aucune. Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Ah, quel entretien magnifique! Il n'y a pas, n'est-ce pas, de questions posées sur la doctrine, il n'y a pas de conditions, il n'y a rien de tel, n'est-ce pas? Voilà ce qui est une véritable conversion. Il semble, en somme, qu'il soit très aisé, voyez, à des hommes de croire, si leur cœur est droit, et si le Père, comme nous l'avons vu dans cet évangile, a bien attiré cette âme vers le Fils, vers son Fils, n'est-ce pas? Dieu attire, Dieu ou pousse une âme vers le Fils. Et c'est le cas de cet homme. Et alors là, c'est aisé. Et je pense que cette rencontre si touchante, si magnifique que nous décrivent ici ces quelques versets, cette rencontre doit être l'expérience de tout croyant aujourd'hui, à la seule différence près, qui n'est pas d'ailleurs une différence à considérer comme un désavantage, à la seule différence près, c'est que ce ne sont pas les yeux qui voient le Seigneur, les yeux du corps, mais les yeux de l'âme, les yeux de l'esprit voient le Seigneur. Celui qui voit le Seigneur et croit en lui a la vie éternelle. Il faut le voir, il faut une rencontre. Et chers amis, je pense que nous aurions bien besoin, lorsque nous témoignons ou lorsque nous évangélisons, de penser à cela. Il faut conduire une âme qui est attirée par le Père vers le Fils. Il faut la conduire au Fils, il faut aider à cela, il faut travailler à cela, travailler, nous sommes ouvriers avec Dieu, travailler avec le Saint-Esprit pour l'amener à voir le Fils et à croire en lui. Cette rencontre personnelle avec le Fils de Dieu, rencontre personnelle, nécessaire, indispensable, celui qui
aspire à la vérité qui est la vérité, qui est de Dieu. Dieu le conduit à son Fils, et le Fils est là, qui ne frappe à la porte. Il entre, il soupe avec lui, n'est-ce pas ? Il y a communion, une communion s'établit. Il faut cette rencontre avec le Seigneur. C'est une expérience dont, qui n'est pas localisée dans le passé évangélique, mais qui, au contraire, appartient à l'expérience de toute l'Église. Et Jésus, devant cette si belle confession de foi, devant cet homme qui se prosterne devant lui, donc devant Dieu, alors Jésus va prononcer encore une parole, une grande parole d'enseignement, une parole doctrinale, car il y a une doctrine de Christ, mes amis, mais une doctrine sur laquelle il ne faut pas spéculer, une doctrine qu'il faut prendre, qu'il faut respecter, qu'il faut comprendre par l'esprit. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, mais que ceux qui voient deviennent aveugles. Et alors Jésus, qui voit un groupe de pharisiens pas loin de là, n'est-ce pas, élève certainement la voix. Il faudrait regarder, je n'ai pas regardé le verbe là, puis Dieu dit, il se peut que ce soit Dieu s'écria, n'est-ce pas, s'écrie. Et il a certainement élevé la voix, parce que nous voyons qu'ensuite, il y a des pharisiens qui ont entendu ces paroles, n'est-ce pas. Il a dû élever la voix et dire cela pour que les pharisiens entendent. Et vous voyez que le Seigneur Jésus prononce, en somme, la doctrine. Pouvons faire cette observation maintenant avec ce que nous avons vu de l'évangile de Jean. Il prononce sa doctrine devant les misérables de la terre, les pauvres en esprit. Et c'est bien vrai, n'est-ce pas, que ces choses, les choses révélées, elles le sont à des enfants, des petits-enfants, et non pas aux sages et aux intelligents. Et c'est à la Samaritaine, cette femme, qu'il a annoncé des choses considérables. C'est ici, devant cet aveugle né, n'est-ce pas, qui a été guéri, qui n'avait jamais fréquenté l'école, n'est-ce pas, qui ne savait rien. C'est devant cet homme qu'il va à nouveau prononcer une parole doctrinale, une parole forte et puissante. Eh bien, chers amis, je crois qu'aujourd'hui, si nous sommes devant des gens qui sont vraiment de foi, si nous avons dans nos communautés, dans nos églises, des gens qui se sanctifient, qui ont la foi d'enfant, je crois que le Seigneur prononcera là où il y a lieu. Vous voyez, il ne va pas prononcer dans des églises formalistes, mais là où il y a lieu, il prononcera. Il prononcera de la doctrine. Il prononcera des choses puissantes, des choses éternelles. C'est là, parce que la Bible, nous l'avons, mais nous avons besoin aussi de l'Esprit pour la vivifier. Enfin, la vivifier, c'est l'Esprit qui vivifie tout. Et nous avons besoin donc du Seigneur Jésus pour prononcer à nouveau la doctrine, de façon à ce que cette doctrine nous vienne directement de lui, du ciel. Jésus, nous l'avons vu, est la lumière qui éclaire le monde. La parole de Dieu est la lumière. Elle vient dans le monde pour éclairer le monde. Éclairer le monde. Mais tous ne se laissent pas éclairer. Certains se laissent éclairer. D'autres, qui croient voir, deviennent aveugles par l'effet de la lumière. Pour eux, la lumière, n'est-ce pas, révèle une cécité qui existait, bien sûr, mais elle révèle et elle confirme la cécité. Pour ceux qui voient, c'est-à-dire ceux qui croyaient voir, ben c'est cela qu'il faut bien comprendre. Pour ceux qui ne voient point, alors je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient. Ceux qui ne voient point, les pauvres en esprit, les petits-enfants, les pécheurs qui se savent coupables, les malades qui conviennent qu'ils sont malades. Alors ces gens-là qui sont dans les ténèbres, ils ne voient point, eh bien ils voient. La lumière vient et illumine leur cœur.
quant aux sages et aux intelligents, quant aux justes, je ne suis pas venu pour des justes, quant aux justes, quant à ceux qui sont bien portants et qui n'ont pas besoin de médecins, la lumière vient, mais la lumière montre qu'ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas recevoir la lumière, et la lumière fait plus, elle confirme, elle scelle en quelque sorte leur aveuglement. Autrement dit, la lumière vient dans le monde, cela nous l'avons déjà vu, et il faut que les hommes fassent un choix. Elle va en quelque sorte être le révélateur, cette lumière, le révélateur de la position, de l'état d'âme des hommes. Ou bien des hommes viendront, je ne dis pas, n'est-ce pas, en une minute, en un instant, en un seul jour, bien sûr. Dieu accorde le temps nécessaire à chacun, selon sa position, selon son âge, n'est-ce pas. Bon, mais la lumière vient, ou bien elle est reçue, ou bien elle est repoussée. Et en définitive, avant de quitter cette terre, selon que nous aurons reçu la lumière et nous aurons vu, ou selon que, croyant voir, nous l'aurons repoussé, et nous faisant, n'est-ce pas, les émules des sages et des intelligents, ou de ses propres justes, ou des bien portants, n'est-ce pas, alors nous aurons dit, mais nous savons, nous sommes riches, nous n'avons pas besoin de cela, nous avons tout ce qu'il nous faut, nous aurons repoussé, par attachement aux œuvres mauvaises, cela aussi nous l'avons vu, alors à ce moment-là, eh bien, il y aura un jugement. Et entendons ici, n'est-ce pas, jugement de condamnation. Voyez, le Seigneur prononce ces paroles pour être entendu des pharisiens, n'est-ce pas, parce qu'il a les deux cas extrêmes, il a cet homme guéri qui reçoit et qui voit, lui, et puis ces gens qui croient voir et qui sont confirmés dans leur aveuglement par, précisément, la lumière. La lumière venant là, ils sont confirmés, ils sont manifestés, dévoilés dans un aveuglement qui ne les quittera plus. Donc il y a deux classes d'hommes, elles séparent. La parole de Dieu, qui est la lumière du monde, sépare. Alors les pharisiens vont faire quelque chose, ils entendent ces paroles et ils vont s'approcher de Jésus pour lui dire, eh bien, nous aussi sommes-nous aveugles, n'est-ce pas ? Ils se croient très forts et très malins en disant cela. Ils se disent, tiens, s'ils nous qualifient d'aveugles, tiens, voilà encore une bonne occasion. Nous, les chefs des Juifs, nous, les docteurs d'Israël, ils vont nous traiter d'aveugles. Ah ben alors là, ce sera le comble, n'est-ce pas ? Ah, ce sera le comble ! Ils vont nous traiter d'aveugles. Voyons voir un petit peu, n'est-ce pas ? Voyez toujours, n'est-ce pas, leur hypocrisie, leur intention perfide. Alors, ils s'approchent. Mais, comme toujours, la réponse de Jésus est déconcertante. Elle déconcerte la réponse de Jésus. Alors ils vont s'en aller le nez par terre. Jésus va leur dire, si vous étiez aveugle, donc il ne leur dit pas, vous êtes aveugle, comme ils s'y attendaient. Ils s'attendaient à cela, n'est-ce pas ? Ils ont bien compris tout de même un peu l'allusion qu'il y avait dans la parole de Jésus, n'est-ce pas ? Alors, ils s'attendaient donc à ce que Jésus dise « Oui, vous êtes des aveugles !» Mais il leur dit « Si vous étiez des aveugles oh, !» Ah, il ne nous dit pas que nous sommes des aveugles. « Vous n'auriez pas péché ah, !» Ils ne s'attendaient pas à ça, n'est-ce pas ? Mais maintenant, vous dites « Nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Et la réponse de Jésus signifie en somme ceci. Il serait bon que vous soyez des aveugles. Ça serait préférable que vous soyez comme a été cet homme. Ah, ce serait parfait parce qu'aujourd'hui, vous verriez comme il voit, lui. Mais en réalité, n'est-ce pas, vous n'êtes pas des aveugles selon votre propre pensée. Vous ne vous voyez pas comme des aveugles. Au contraire, n'est-ce pas, vous vous voyez comme des hommes qui possèdent la pleine lumière. En somme, voici comment ils se croient. Je prends une parole de Jésus qu'il aurait adressée dans un évangile synoptique. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous l'avez enlevé, vous l'avez emporté, vous l'avez avec vous et vous croyez posséder la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qu'il voulait. Vous avez la clé de la science, n'est-ce pas? Voilà, en somme, ce que Jésus leur dit. Ils ne se croient pas aveugles, mais au contraire, ils sont conscients de posséder la connaissance de la loi et toute la lumière que peut posséder un homme sur la religion, sur tout ce qui est, qui touche à la divinité. Ils possèdent la lumière et c'est alors que, ne reconnaissant pas devant eux la vraie lumière, l'envoyé de Dieu, eh bien, leur connaissance les juge. C'est pour cela que votre péché subsiste. Eh bien, vous êtes, par conséquent, jugé pécheur, pécheur incurable. Hein? Parce que, ayant, vous le prétendez, la clé de la science, ayant la connaissance, ayant la lumière, vous ne voyez pas ce que Dieu vous montre à voir, ce que vous, vous devriez voir, parce que c'est la lumière venant de Dieu, envoyée de Dieu, vous ne la voyez pas, et cela vous fait pécheur. Si vous n'aviez pas eu cette prétention à savoir, si vous ne vous étiez pas fait sage et intelligent, mais si vous aviez été humble en esprit, vous auriez été de ces aveugles que je guéris. Ah, mes amis, cette leçon est forte, n'est-ce pas? Et nous la voyons persistante dans tout l'enseignement du Seigneur Jésus, et nous devons la retenir, ne pas l'oublier. Sommes évangéliques, c'est très bien, mais attention, notre doctrine n'est pas une vieille chose, un vieux monument que nous traînons, n'est-ce pas, et que ce n'est pas comme ces rouleaux que les Juifs mettaient dans une chambre abandonnée du temple et qui se couvrait de poussière. Il faut que notre doctrine soit une chose nouvelle tous les jours et que nous soyons nourris d'une vérité qui se renouvelle en nous, dans notre esprit, afin que nous aussi, nous soyons des aveugles que le Seigneur a guéris et auxquels il a permis de voir. Amen.